Tout le monde est bien sage. Bon, on peut commencer, tant pis. Oui, donc on continue sur cette série avec appelé et envoyé, donc la vocation. Et là, j'ai choisi, c'est un peu pour aller avec le 24 août aussi, les armes du chrétien dans la lettre aux Éphésiens de l'apôtre Paul. Alors cette lettre aux Éphésiens, les gens se posent la question de savoir si c'est écrit pour les Éphésiens ou pour les Laodicéens, parce que l'attribution est un peu discutable au début. Au début, dans les manuscrits les plus anciens, il n'y a pas marqué que c'est aux Éphésiens, alors on ne sait pas. Les pères de l'Église, au IIe siècle, disent que c'était aux Éphésiens, d'autres disent que c'était aux Laodicéens, mais quand même, finalement, c'est peut-être quand même aux Éphésiens. Ce qui fait hésiter sur la question, c'est que le style littéraire est quand même particulier. C'est un style très rédigé, c'est pas juste une lettre griffonnée sur un coin de table pour envoyer à des copains, en fait. Il y a des styles littéraires différents que savait utiliser l'apôtre Paul, par exemple. Mais même, c'était des styles littéraires... on n'écrit pas pareil quand on écrit à un copain que quand on écrit... quand on fait un essai, par exemple, universitaire. Là, c'est plutôt le style essai universitaire, avec des phrases très longues, très compliquées. Il y a des phrases qui font carrément 15 versets, avec des développements un peu compliqués. Et donc, ça, c'est plutôt ce style-là. Alors, peut-être, les gens disent, que ça a été aussi un peu une circulaire qui a tourné un peu dans le coin là-bas, avec un petit peu des bases théologiques. Alors ensuite, il y a des gens qui disent que, peut-être c'est une écriture plus tardive qui est mise comme ça se faisait couramment à l'époque. On la met dans l'école de Paul, c'est des disciples après qui auraient pu rédiger un petit catéchisme comme ça, en quelques chapitres, avec une compilation un petit peu de la lettre aux Colossiens ou d'autres lettres, et puis de faire un beau truc bien construit, peut-être. En tout cas, c'est une belle lettre, intéressante, dense. Et là, on a, sur le chapitre 6, un enseignement qui est, je trouve, assez intéressant. Alors, il est très connu parce qu'on a des petits dessins avec les armes du chrétien et on apprend ça à l'école biblique aux enfants. On dessine un petit soldat avec un casque, une épée, une cuirasse et des chaussures. Donc, c'est assez imagé. Hein. Donc, le texte, vous voyez, pas très long. Ça fait juste une petite colonne. Là, j'ai mis la traduction, donc la Nouvelle Bible Second. Mais sinon... Quoi ? Alors, j'ai mis le texte interlinéaire grec à côté. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que comme il n'est pas trop long, on a peut-être le temps. Pardon ? Ah oui ? Il y a une petite feuille là, oui ? Ah, si ça vous gêne, on peut la couper. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont du mal à lire sans lumière, c'est possible ? Ça va ? C'est mieux pour certains, moins bien pour d'autres, donc c'est toujours délicat. Hein. Ça dépend des yeux de chacun. Oui, mais c'est vrai que là, vous êtes en contre-jour. C'est le plus difficile pour bien voir. Bon, ben, c'est parfait alors, si tout le monde est content. Ça va ? Bon. Donc voilà cette lettre, ce passage donc, de la lettre aux Éphésiens qui nous envoie dans le monde avec quelles armes ? Alors effectivement, c'est toujours la question de savoir avec quelles armes, pas se tromper de combat et puis pas se tromper d'armes dans nos combats aussi. Alors ça a été longtemps discuté de savoir, est-ce qu'on peut utiliser la violence ? Et bonjour, il y a une petite feuille sur la table. Savoir si on peut utiliser la violence ou pas en allant dans le monde. Alors la longue discussion, c'était, par exemple, il y a eu des discussions qui ont duré des millénaires, depuis Saint Augustin jusqu'à Pierre Bel, sur le contraint-les d'entrer. Compelle entrare, comme on dit en français, en latin. Donc, c'est assez connu ce débat sur le contraint-les d'entrer. C'est la parabole de Jésus pour les festins, les noces. Un festin de noces. Il invite plein de gens, ils ne veulent pas venir, ils ont tous autre chose. Il y en a un qui doit essayer un nouveau tracteur, l'autre qui vient de se marier. Et puis, ce n'est pas un tracteur, c'est une paire de bœufs, je crois, mais ça revient à ça.
Oui, je...
Et puis donc ils ont tous quelque chose, ils vont pas. Alors finalement, il va chercher un peu dans les coins de rue, les carrefours et les longs des chemins, les gens qui traînent. ça suffit encore pas. Alors le maître dit, bah, tu vas aller chercher les gens et tu les contrains d'entrer. Et donc ce contraint d'entrer, c'est, voilà, ça, du coup, ça a basé sur le droit, finalement, ou même le devoir de persécuter par la force pour forcer les gens à entrer dans l'église. Ou alors, par exemple, quand il y avait des bûchers d'hérétiques, on se disait qu'on leur faisait du mal, mais c'était peut-être de la part des inquisiteurs de se dire, mais en fait non, on fait le salut du monde parce qu'ils répandent plein d'horreurs et donc ils vont troubler les gens et entraîner les gens pour la damnation éternelle. Mais même ils se disaient, mais voilà, la personne qu'on va mettre sur un bûcher, peut-être que c'est aussi faire son salut à elle, parce que on lui donne les moyens de se convertir au dernier moment avant de brûler. Bon, elle perd son corps, c'est un peu triste, mais cela dit... Voilà. Et donc ça, c'est toujours été des questions, bien entendu. Hein. Et là, bon, il a une certaine réponse, un type de réponse. Voilà. Avec quelles armes on est envoyé dans le monde, pour quel type de combat, c'est un peu la question. Ben, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on entend par là et avec quelles armes on est envoyé dans le monde ? Voilà, ça c'est un peu la question. Et c'est la question aujourd'hui de tout l'intégrisme qui est effectivement, par exemple, peut exclure des personnes qui pensent mal ou qui font mal, les exclure de, je sais pas moi, de l'Église, de la communion, etc. Mais c'est la question de toutes les Églises. C'est forcément un peu la question. C'est même la question... Oui, enfin bon, c'est... La question, par exemple, sur le site internet, les gens viennent mettre des commentaires haineux, des commentaires méchants, etc. Est-ce qu'on les laisse faire ? Est-ce qu'on les laisse pas faire ? Est-ce qu'on les met dehors ? Est-ce qu'on les met pas dehors ? Jusqu'où on peut accepter la haine et l'intolérance ? Tolérer l'intolérance et tolérer la haine ? Donc c'est toujours la question. Donc savoir avec quelles armes lutter comment ? C'est une question qui est... Si on lutte pas du tout, on peut peut-être laisser faire le mal ? Ben, oui.
Je pense qu'il faut lutter autrement.
Ben, faut essayer de lutter autrement. En même temps, bon, c'est toujours la question. Est-ce qu'on peut laisser les pédophiles pédophiler, les gangsters gangstériser Ben non. Il y a un moment, il faut utiliser la contrainte physique pour dire on va empêcher. Alors est-ce que... pour protéger des victimes innocentes. Alors ensuite, si on pense que effectivement la foi est quelque chose de super important dans la dimension de l'homme... C'est vrai, je pense. Est-ce qu'on peut laisser n'importe qui dire n'importe quoi, troubler les âmes avec des dogmes épouvantables, machin ? C'est-à-dire, le gouvernement français, il dit, on peut quand même, oui, la liberté d'expression, en même temps, les appels au meurtre, c'est quand même pas très drôle, donc on va interdire ça quand même. Donc il y a des limites à ça. Alors effectivement, ça pose toujours un peu des questions... c'est là que Sébastien Castellion, par exemple, face à Calvin, il va laisser brûler ou faire brûler Servet parce qu'il est contre la Trinité. Bon, Castellion dit, mais je suis désolé, si on n'est pas d'accord sur un point de théologie, on en discute, mais on ne brûle pas quelqu'un pour ça. Et il dit, brûler un homme, c'est pas défendre une idée, c'est tout juste brûler un homme. Mais c'est assez nouveau au XVIe siècle. Alors cela dit... Des fois, au XXIe siècle, on peut...
Mais est-ce qu'il n'y a pas deux questions ? Il y a celle de la violence physique et il y a celle du prosélytisme, qui est une question tout à fait différente. Est-ce qu'on est, on se sent... parce que sur la violence physique, on va assez rapidement tomber d'accord, je crois. Mais est-ce qu'on se sent dans une société où être missionnaire, ça nous convient ou pas, sachant que certaines églises, comme le
C'est-à-dire, nous, on évangélise différemment, effectivement, mais on évangélise tous. Si on est envoyé dans le monde, c'est pour témoigner de ce en quoi on croit. Et puis, témoigner de ce en quoi on croit, c'est pas forcément avec menace, avec chantage. Ça peut être fait comme, par exemple, quand celui qui est passionné de, je sais pas quoi, d'aéromodélisme, il peut aller dire à ses copains, mais moi, j'ai fait un week-end formidable parce que j'ai été... On avait une compétition de modèles d'avions et il y avait une si bonne ambiance, etc. Donc on peut le faire pour l'aéromodélisme, on peut le faire aussi, par exemple, pour la foi, de dire, voilà moi ce que ça m'apporte, mais si les gens disent, moi j'en ai rien à faire de ton truc, qu'il ait le droit de le dire et qu'on soit, on le considère pas comme moins humain, moins bon ou je sais pas quoi. C'est ça la question, c'est savoir avec quelles armes, comment. C'est une question qui mérite, à mon avis, de se poser. Alors c'est vrai que là, c'est dit d'une manière relativement abstraite, mais je pense que c'est quand même à méditer pour essayer de voir dans notre vie courante qu'est-ce que ça peut vouloir dire de lutter ce pour quoi on croit, pour ses idées, pour sa foi, pour ses valeurs, pour ses opinions, ou pour je ne sais pas quoi. Donc peut-être il faut lire quand même le texte, parce que sinon, à force de bavarder, on ne va pas le lire. Donc en tout cas, surtout les 17 premiers versets, en fait, qui sont surtout dans le sujet. La deuxième moitié, je l'ai mis quand même, parce que c'est la fin de l'épître, et donc je ne voulais pas rester là-dessus. Mais le premier paragraphe, c'est surtout sur celui-là que nous allons nous appesantir. Et avec à côté le texte grec, peut-être qu'on pourra un peu plus rentrer dans le mot à mot de ce texte. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ces 17 premiers versets? Ça changera un petit peu de voix. Merci, oui.
Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 24. « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et, après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. »
Voilà, donc merci beaucoup. Donc c'est un beau texte bien imagé quand même, c'est sympa. Donc on va prendre ce texte. Donc au reste, donc bon, voilà, c'est un peu la conclusion finalement de ce passage. Voyez, il y a marqué « soyez puissants » dans la traduction, mais quand on regarde, eux ils ont mis « fortifiez-vous » dans le mot à mot, mais cela dit, c'est pas encore très bien traduit parce qu'en fait c'est un passif. Ce serait plutôt « soyez fortifiés » en fait. Ça change tout, parce que soyez puissants, on pourrait se dire, bon, ben, c'est un appel, vous voyez, à être puissant, à se devenir puissant par soi-même. Alors que là.
C'est bien dit dans le Seigneur.
Alors c'est quand même dit dans le Seigneur, oui. Mais c'est vrai que. On pourrait se dire, c'est soyez puissants, c'est. Devenir puissant par ses propres forces et le faire ensuite dans la fidélité à ce que veut le Christ ou à ce que en communion avec le Christ. Mais là, c'est parce que le N de dans le Seigneur, on pourrait dire aussi bien par en fait, parce que le N c'est un peu ambigu. Par exemple, au verset 18, il y a marqué priez en tout temps par l'Esprit. C'est aussi haine pneumatique dans l'esprit, donc c'est par l'esprit, dans l'esprit, vous savez, c'est compliqué, ça peut être aussi un haine de... voilà, c'est le Seigneur qui nous donne, le Seigneur, donc là, dans ce cas-là, c'est le Christ, qui peut nous donner de la force, je pense que c'est ça, mais ça veut dire aussi, dans le Seigneur, c'est-à-dire on se met dans le corps du Christ, on travaille en équipe, les uns avec les autres, entre chrétiens, dans la communion avec le Christ, on est fort ensemble. En s'épaulant, en se complétant, ça veut dire un peu tout ça. Mais c'est vrai que là, la force, elle vient de l'extérieur quand même, elle ne vient pas de l'intérieur, vous voyez.
Je peux revenir sur le mot puissance, c'est bien le mot qu'il y a dans Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, de même que c'est le mot qu'il y a dans Démocratie, etc.
Et, Créteil, oui, là d'enfant.
Il y a beaucoup de débats sur le sens de ce mot. Quand on parle de Dieu Tout-Puissant, est-ce que Tout-Puissant peut tout faire? Moi, j'ai discuté avec des Grecs à un moment où je débattais là-dessus.
Oui.
Ils m'ont dit que Créteil, c'est gouverner, comme dans Démocratie. On
oui.
gouverne, ça ne veut pas dire qu'on obtient tout ce qu'on a légiféré.
Vous avez raison. En même temps, pas tout à fait raison. C'est-à-dire que ça, le grec, c'est ça le problème. C'est que le grec, si vous voulez, du Nouveau Testament, c'est du grec classique, mais c'est à la sauce des Septante, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une traduction de l'Ancien Testament de la Bible hébraïque qui date de moins 300. C'est l'époque quand même d'Alexandre le Grand, d'Aristote, ou de je ne sais pas qui. Et donc, ils traduisent l'Ancien Testament. Bonjour. Bienvenue. Vous pouvez prendre un petit strapontin, si vous voulez, une petite chaise, et puis une petite feuille sur la table. Ah, il y en a encore une chaise, là, ça va. Oui, donc, si vous voulez, le problème, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas seulement chercher dans le grec classique, il faut aussi chercher dans les Septante quelle notion hébraïque est traduite par ce mot. Et donc, si effectivement, c'est un mix des deux, le sens. Parce qu'effectivement, quand Paul écrit aux Éphésiens, les Éphésiens, c'est des païens qui connaissent le grec de chez grec, le grec classique. Donc pour eux, le kratos, kratein, là, c'est un mot de la langue grecque classique. Donc ça veut dire ce que vous dites, une puissance normale.
Une gouvernance,
chose comme ça. Mais dans l'Ancien Testament, kratos, ça traduit toujours... dans les Septante, Kratos, c'est toujours la puissance de Dieu. C'est pas la puissance des hommes comme ça, d'un roi, machin. C'est toujours la puissance de Dieu. Donc c'est un peu, c'est là que certaines traductions ont pu mettre la toute puissance dans ce mot-là. Là, ils ont mis force souveraine.
C'est comme quand Dieu dit à la foudre, tu tonnes et elle tonne.
En tout cas, si vous voulez, même dans l'Ancien Testament, à mon avis, Dieu est pas tout puissant. Ça, c'est une légende. Quoi ?
Il est sur la foudre, mais pas sur l'homme.
Mais même pas sur la foudre, si vous voulez. Même pas sur la foudre. Et c'est vrai que quand on regarde concrètement quand est-ce que vraiment il y a marqué tout-puissant, comme vous dites, c'est Pantocrator, Crator tout court, ça ne veut pas dire tout-puissant, à mon avis. Ça veut dire la puissance de Dieu. Mais est-ce que Dieu est tout-puissant ? Non. Quand on veut mettre tout-puissant, c'est Pantocrator. Et Pantos tout et Crator la puissance, ils mettent Pantocrator. Quand est-ce qu'il y en a? C'est uniquement quand on parle de la fin des temps, donc à l'horizon de l'histoire, et c'est pas pour le présent. Et donc ça, je crois que ça a fait énormément de mal, et cette idée que Dieu serait tout-puissant, ça a fait beaucoup plus d'athées que tous les athées du monde, en fait. Ça a fait énormément de tort, parce qu'on s'imagine un Dieu tout-puissant, que quand il pleut, c'est lui qui fait pleuvoir, quand on est malade, c'est lui qui donne la maladie, ou qui pourrait donner la santé s'il avait envie. Du coup, on tombe dans une sorte de religion qui devient... un peu superstitieuse, où on prie Dieu pour faire bouger le bras de Dieu, c'est-à-dire le faire obéir à nos ordres. Alors ça, c'est très ennuyeux pour deux raisons. C'est que d'abord, on est soumis à des déceptions. Deuxièmement, on culpabilise ceux qui ont un enfant qui meurt, par exemple, de maladie, parce qu'on dit, ben, non seulement votre enfant meurt de maladie, c'est déjà pas drôle, mais en plus, vous êtes coupable de la mort de cet enfant. Parce que si vous aviez eu assez de foi, Dieu aurait répondu à votre demande et il aurait sauvé votre enfant. Donc, c'est absolument terrible et redoutable pour envoyer les gens au désespoir, finalement. Alors que non, et d'ailleurs les traductions modernes, aussi bien de la seconde avec la NBS que la TOB, la nouvelle TOB, par exemple dans tout la Genèse, quand il y avait marqué tout-puissant, ils ont enlevé, pour enlever le tout de tout-puissant, pour mettre puissant, parce que c'était un mensonge des traducteurs de mettre tout-puissant dans la Genèse, ça n'y est nulle part. Et par exemple dans Marie, dans Luc 1, il y a marqué le tout-puissant fait pour moi des merveilles, c'était un mensonge. Il n'y a jamais marqué tout-puissant. Ici, il n'y a pas marqué tout-puissant. Ils ont même mis force souveraine. Vous cherchez dans le grec, il n'y a pas marqué de souverain. Hein. C'est juste le fantasme des traducteurs qui disent, bah, bien sûr, tout le monde sait que Dieu est tout-puissant, il fait ce qu'il a envie. Ben non, il ne fait pas ce qu'il a envie. Et d'ailleurs, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ben, c'est qu'elle n'est pas faite, sa volonté. Voilà. Quoi ?
Dans le credo,
je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, c'est dans le credo, mais ça c'est du jus de théologie d'apôtre. Hein.
Ah, voilà.
Et encore, et les apôtres, le credo, ça a été inventé au 4e siècle, 5e siècle, et c'est, voilà. Alors cela dit, dans le credo, c'est discutable. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est, il est Tout-Puissant en tant que Père. Donc à ce moment-là, ce serait une puissance d'amour et d'accompagnement. On sait bien la puissance qu'a l'amour, hein, c'est celle d'appeler, appeler, appeler, accompagner, et finalement garder le meilleur de la personne, même si elle meurt de maladie horrible. Donc non, là, il n'y a pas de toute puissance en tout cas, il n'y a pas de force souveraine. Il y a l'idée de se laisser fortifier à la fois par le Seigneur, par le Christ, dans cette communion au Christ, et puis aussi dans le Seigneur, donc en équipe, en corps du Christ, les uns avec les autres, dans le respect mutuel, la complémentarité, dans la diversité, tout ça, comme le Paul le rappelle souvent. Et le début de la lettre aux Éphésiens, c'est très bien expliqué, avec cette langue infiniment quand même complexe, ces phrases à rallonge avec mille parenthèses quand même de ces textes hein, particuliers. Mais l'homme nouveau que Dieu crée en Christ, c'est à la fois chacun de nous quand on est vraiment renouvelé par l'Esprit Saint, quand on a cette évolution spirituelle, intellectuelle, morale de l'esprit, et c'est en même temps le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité comme un corps. Et c'est toujours cette ambiguïté, l'homme nouveau, c'est à la fois chacune et chacun de nous, et à la fois nous tous ensemble. Mais c'est toujours ambigu, si vous voulez. Et là, c'est ambigu aussi. Le « fortifiez-vous », c'est qui ? C'est chacun individuellement ou nous tous ensemble ? Ben, c'est les deux. C'est les deux, voilà. Et on peut oublier ni l'un ni l'autre, hein, de toute façon. Alors, dans sa force et sa puissance à lui, voilà. Ensuite... revêtez-vous alors de toutes les armes ils ont mis, mais en fait on voit il y a marqué panoplie hein, on connaît le mot hein, en grec hein. Panoplian, hein, c'est la panoplie c'est toutes les armes comme on achète une panoplie de Superman pour votre enfant de. Il a pas ça? Non, quand même pas, il est un peu trop grand maintenant. on achète une panoplie de Superman, donc il faut prendre la panoplie. Les armes de Dieu, mais là aussi c'est un peu ambigu parce que les armes de Dieu, c'est les armes que Dieu nous donne.
C'est pas le canon.
Ou c'est les armes que Dieu lui-même utilise en fait. Hein, c'est les deux. C'est voilà. Ça c'est particulier aussi comme théologie biblique. Hein, c'est que la volonté de Dieu, la justice de Dieu, les armes de Dieu, c'est les armes que Dieu utilise lui-même. C'est la justice que Dieu considère comme juste, et c'est ce qui nous donne aussi à nous comme façon d'être juste, comme arme pour agir. On est créé à l'image de Dieu, donc quand on a ça, si vous voulez, c'est à la fois ces armes qui sont là, c'est les armes de Dieu, c'est les armes que Dieu nous donne et c'est les armes que Dieu utilise. Donc c'est à la fois de la théologie, c'est à la fois de l'éthique. C'est toujours les deux en même temps en fait, c'est toujours les deux sont un décalque l'un de l'autre. Alors bien sûr, il y a une différence d'échelle entre nous et Dieu, bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand même, la théologie et l'éthique sont cohérentes. Il n'y a pas d'un côté, voilà, ça c'est les devoirs pour l'homme, et puis Dieu, lui, est au-dessus de tout ça. Non, non, c'est cohérent. Quand on dit, je ne sais pas, il faut aimer, Dieu est le premier à aimer, il est le seul, voilà, par exemple. Donc la panoplie de Dieu, pour pouvoir tenir bon. Alors le tenir bon, ce qui est quand même, je trouve, intéressant, c'est que le sténaï là, hein, on le retrouve plusieurs fois finalement, hein, dans ce passage. Hein, on le retrouve... où est-ce qu'on le retrouve ? On le retrouve aussi, vous voyez, trois fois, au verset 13 et 14, vous voyez, le sténaï. Il y a au verset 13, vous voyez, que vous puissiez résister dans le jour mauvais. C'est anti-sténaï. En fait, sténaï, c'est comme c'est marqué au début du verset 14, ou à la fin du verset 13, c'est tenir debout, en fait. Hein. Donc c'est assez beau parce que c'est rester quelqu'un de debout, quoi, de ne pas être à terre, de rester dressé sur ses pattes de derrière. C'est assez beau parce que le verbe de la résurrection, vous savez, il y en a deux en fait. C'est se réveiller, egeiro, ou anistemi, c'est se lever. Donc on pourrait dire aussi de pouvoir vous tenir comme ressuscité, si vous voulez. Et celui qui nous met debout, c'est l'esprit, c'est l'action de Dieu qui nous permet d'être debout. Donc capable d'avancer, capable d'avoir une certaine hauteur, capable aussi d'être en cette position un peu paradoxale, d'être à la fois de la terre par les deux pieds et du ciel finalement par cette position verticale. Ça fait de l'homme une créature dans une situation inconfortable mais merveilleuse finalement, d'être dans cet entre-deux finalement. Donc là, tenir bon, c'est se tenir debout. Alors contre les manœuvres, les méthodes, hein, il y a plein de mots grecs en fait qu'on connaît en français, donc ça aide un peu la panoplie, la méthode, les méthodes du diable. Alors il y a marqué diabolou, vous voyez, il y a marqué diable. Bon, peut-être c'est mal traduit de mettre diable, parce que quand on met diable, bon, ils ont décalqué le mot grec. Alors c'est un peu ambigu, parce que du coup ça personnifie peut-être à outrance ce mot, diable. Pourquoi ils n'ont pas traduit? Parce que c'est devenu comme une créature. Alors que c'est plus une fonction. Hein. Diabolos, pardon? Non, mais on aurait pu mettre du disperseur, de ce qui est disperse en fait. Parce que c'est une fonction de diabolo, c'est disperser, éparpiller, c'est émietter, c'est donc c'est ce qui divise, qui disperse, ce qui émiette, ce qui fabrique du chaos finalement. Donc peut-être qu'on se serait mieux senti ce que ça peut représenter comme force, comme réalité dans notre existence.
Parce que justement, s'il s'agit de lutter contre le diable et pas contre d'autres humains, on peut prendre ça comme un combat intérieur.
Alors on peut prendre ça comme un combat intérieur, mais si vous voulez, le diable, c'est vrai que c'est pas forcément... Il y a plutôt du diabolique.
Oui, c'est ça.
Que force. Est-ce qu'il faut le personnifier? Bon, alors ici c'est un peu personnifié quand même, parce que vous voyez, après on parle de les principats, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes, et puis on parle du mauvais avec un M majuscule à la fin du verset 16. Donc ça c'est un peu ambigu. Est-ce que c'est une personnification des puissances du mal comme une créature mauvaise? Oui, on peut le penser. Alors ça, si vous voulez, ça vient aussi de... En fait, c'est des restes. Pour ceux qui le personnifient vraiment et qui voient qu'il y a un diable, donc une puissance transcendante qui est source de développement du chaos dans le monde et en nous, c'est des restes, en fait, de religion dualiste de Babylone. Ça, c'était 1000 ans plus ancien que les premières versions de la Bible. Avec le dualisme mésopotamien, et donc on a les originaux du début de la Genèse dans notre annexe en face, en fait, au Louvre, avec des tablettes cunéiformes, et on voit, il y a des combats comme ça, ces combats titanesques, littéralement, des combats cosmiques entre un dieu des ténèbres et un dieu de la lumière, et une force d'évolution et de création, et puis une force d'éparpillement, etc., et puis avec des anges des ténèbres et des anges de la lumière. Et donc ce dualisme, si vous voulez, avec deux dieux finalement, ben ça fait de l'usage. C'est vrai que la Genèse, par exemple le début de la Genèse, c'est copié à grand paragraphe, hein, c'est pas juste un peu inspiré de ces écrits qui étaient 1000 ans plus vieux que la Bible. Sauf que, on le voit dans la Genèse, il y a pas deux dieux, un dieu méchant, un dieu bon, il y a plus qu'un dieu, il est bon. Et il crée en faisant une mise en ordre de ce chaos. Donc il reste à la fois du chaos et cette puissance d'évolution et de vie qu'est Dieu, mais il n'y a pas de diable qui est là et qui détricote par derrière ce que le Dieu bon tricote. Mais Quand les Hébreux sont allés, on peut dater à peu près, quand ils sont allés en Mésopotamie vers moins 400 ou je ne sais pas quoi, eh bien, c'est vrai que tout ce dualisme, et puis ces anges, et puis voilà, ça a été décalqué, si vous voulez, sur ce dualisme ou ce polythéisme. Et donc, c'est devenu le Dieu. Bon, nous, on croit qu'en un Dieu, donc c'est Dieu qui est Dieu. Et puis, sinon, ben, le Dieu méchant, ça devient un peu en dessous, une créature qui tourne mal, un ange déchu, je ne sais pas quoi, ça devient le diable. Et puis les anges, ben, ça, voilà, les dieux, les diverses dieux deviennent des anges. Mais ça, c'est décalqué sur cette mythologie, cette théologie mésopotamienne. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on en fait ? On n'est pas forcé, si vous voulez, de rentrer dans cette mythologie, ou dans ce que nous, on considère comme mythologie, dans ce polythéisme ou dans ce dualisme. On peut très bien en rester au monothéisme, et reconnaître, par exemple, du diable, en reconnaître de ce qui est diabolique en nous et entre nous. De l'envie de mettre du chaos, de mettre de la division entre nous, d'éparpiller notre existence, éparpiller nos forces, c'est quelque chose qui existe en chacun de nous. Et donc, c'est pas forcément qu'on est infesté par des démons, c'est simplement, du reste, en nous, de quelque chose qui est de l'ordre du chaos, faut pas forcément le personnifier. Si ce n'est que quand on met un M majuscule à mauvais ou à mal, comme à la fin du Notre Père, délivre-nous du mal, on met souvent une majuscule, on peut y voir la racine de ce qui est mauvais en nous, ou là, les principats finalement, ce qui met principats, les autorités, etc., on peut y voir pas simplement les manifestations du mal dans la société, en nous, ou dans le monde, on peut y voir une invitation à aller au-delà des symptômes, à aller chercher la racine, ce qui vraiment est la source du symptôme. Pas simplement traiter la fièvre, mais traiter l'infection. Pas simplement faire des cures contre l'alcoolisme, mais voir la dépression qu'il y a derrière, peut-être, si vous voulez. C'est toujours la question d'aller à la racine, d'inviter à la racine du mal. Donc je crois, moi j'y verrais plus ça, en tout cas dans la relecture d'aujourd'hui, même si dans certains textes, on peut voir une personnification du mal, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé d'y croire aujourd'hui. Bien des passages de la Bible ne croient pas du tout à une autre puissance transcendante que Dieu et Dieu seul. Voilà. Alors ensuite, quand le mot « diabolos », quand ils le mettent simplement « diable », je pense que c'est quand même trompeur, parce que du coup, c'est une invitation à ce polythéisme finalement, où il y a des puissances transcendantes du mal. Je pense que c'est pas tellement, c'est un peu nocif. C'est comme quand angelos, ange, ils traduisent par messager, ils traduisent par ange, ben ça induit des catégories de créatures, et c'est quand même un peu troublant pour les gens, je pense, alors que on peut être nous des anges du Seigneur en portant une parole de vie à gauche, à droite.
Mais comment on peut prendre le fait que je ne suis pas très bonne par la chaise, et j'ai appris qu'il y a assez souvent par la chaise la nuit, enfin fraude, des cultes sataniques.
Oui.
Il paraît que les voisins, bon, c'est du bruit, ils les entendent.
Bon.
Moi, c'est quelque chose qui me stupéfie, que des gens choisissent ce qu'ils identifient comme étant le mal, exprès. C'est étrange.
Oui, c'est un peu... Il y a des gens qui font du culte satanique, on sait que ça existe, hein, des sortes de cultes sataniques.
C'est très étonnant.
Oui, alors à ce moment-là, je ne sais pas très bien quelle est la psychologie. Voilà, c'est là aussi, il faudrait aller voir la racine du mal. C'est derrière cette démarche particulière.
C'est de la pathologie, là, non ?
Bon, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui peuvent faire ça pour s'amuser, parce que bon, ça peut être un peu style, si vous voulez, de se colorier les yeux en noir, et puis c'est un peu se faire peur avec les sorcières. Ensuite, je pense que c'est surtout... je pense pas que ça aille chercher débloquer des puissances nocives dans le monde, si ce n'est que eux, je suis pas sûr que ça soit très positif sur leur psychologie. Il ferait mieux d'aller... À mon avis, c'est avoir des idées plus tournées vers vers des belles choses que vers les choses mauvaises, je pense. Hein, mais après, voilà. Donc là, si vous voulez, il nous invite à tenir bon, à tenir debout contre les méthodes du diable, de ce qui est mauvais, de ce qui disperse, de ce qui est chaos. Et donc ça nous invite à se préparer d'avance finalement à recevoir une force qui vient de Dieu, et ça c'est une ouverture finalement à cette genèse que propose Dieu en Christ, je pense, hein. Ou en Christ, mais aussi à travers l'ouverture à cette transcendance directement dans la prière, recevoir ce quelque chose qui vient de quelque chose de plus grand que l'univers et qui nous envoie une mise en ordre, une dynamique de rassemblement, de mise en ordre plutôt qu'une dynamique de dispersion, de chaos à l'intérieur de nous-mêmes, hein, et puis entre nous, avec toujours cette ambiguïté de ce qui est dans chacun et entre nous tous. Alors ensuite, voilà, car ce n'est pas pour nous le combat. Alors le combat palais, le combat, c'est le mot technique de la lutte qu'il y avait aux Jeux Olympiques, hein, la lutte entre les lutteurs, hein, contre la chair et le sang. Alors la chair et le sang, c'est la personne humaine vivante, hein. Le sang, c'est la dynamique de vie, d'évolution de la personne, et la chair, c'est un peu plus que la viande, si vous voulez, c'est la personne entière, même dans sa psychologie, dans son moral, dans son intellect, c'est l'être entier, mais peut-être pas l'esprit quand même. L'esprit, ce serait la partie spirituelle. Je pense pas qu'elle soit dans le concept chair et sang. Mais quand même, bon, c'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre la personne qu'on en a finalement, mais c'est plutôt contre les racines. Contre la cause, les principes, finalement ce qui est à la source de ce qui est mauvais en ce monde, hein.
C'est le système.
Système politique. Après, bon, on peut le décliner dans toutes les dimensions de l'être humain. Ça peut être au niveau, comme vous dites, politique. Hein. Ça peut être au niveau aussi psychologie interne, notre psychologie interne. Je crois que ça nous invite à aller travailler finalement, peut-être aussi discerner, peut-être dénoncer. Tout ce qui est de l'ordre, de source, de ténèbres, de méchanceté, de cosmo-kratoras, hein, vous voyez, c'est cosmos, c'est ce monde, et puis le krator, on retrouve le krator, kratein, de la force, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein, la puissance. Hein. Donc c'est les puissances de ce monde, les autorités.
Moi, je ne comprends pas les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben c'est les esprits, donc c'est des esprits. Alors c'est vrai que le mot, hein, pneuma, c'est l'esprit, le souffle. Quand c'est l'Esprit Saint,
c'est tout bon.
C'est tout bon, et puis il y a des mauvais esprits aussi. Voilà. Mauvais esprits, ben c'est des esprits de division, c'est des esprits de dispersion, des esprits d'orgueil. Oui, alors c'est vrai que si vous voulez, derrière, on sent quand même cette influence donc de polythéisme mésopotamien qu'on peut trouver aussi dans les écrits tardifs de l'Ancien Testament, hein, dans les écrits de Zacharie, qu'on peut trouver dans ces écrits tardifs, qu'on trouve, bon, bien que la Genèse soit tardif aussi, mais c'est plus pur dans le monothéisme que d'autres textes finalement.
Vous rappelez que l'accès n'est pas facile et justement il faut aller plus en profondeur. Donc, en fait, céleste, c'est plus la distance peut-être que le haut. Non?
C'est-à-dire que ça nous dépasse peut-être, ça veut dire que ça nous dépasse, et donc oui, il y a des choses, des puissances qui nous dépassent. Alors cela dit, je ne suis pas sûr qu'il faille y voir derrière des puissances transcendantes et des dieux et des anges et des diables et des démons. J'y verrai plus des forces qui nous dépassent et qui sont mauvaises, ténébreuses. Ensuite, c'est à chacun de discerner, justement, d'aller peut-être au-delà de ce qui est visible pour aller chercher ça. C'est ce qui nous est proposé, je pense, ici. De ne pas se tromper d'ennemi. Voilà. L'ennemi, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas, pas des personnes, c'est plutôt aller en amont vers ce qui est source de mauvais esprit, de mauvaise inspiration, de mauvaise ambiance, de mauvaise idéologie. C'est d'aller au-delà quand même. Ça, je trouve que c'est une démarche intéressante. Et c'est justement là que c'est intéressant. Il ne s'agit pas d'aller voir des démons et des machins. Il s'agit d'aller...
En grec, ça ressemble à ça, ou c'est
le quoi?
La traduction qui est mauvaise, quoi?
Non, la traduction est assez bonne là-dessus, je pense, effectivement. Hein. La traduction est assez bonne, mais je ne crois pas qu'il faille y voir derrière des démons et des diables. Il faut plutôt une invitation à aller voir derrière... le racisme, c'est pas forcément les gens qui sont racistes, haineux, etc. Ça veut pas forcément dire qu'il y a des démons qui les ont infestés et qu'il faut faire des exorcismes. Il faut faire, à mon avis, un travail à un autre niveau, autrement, voir qu'est-ce qui va pas dans cette ambiance. Le problème, c'est quand on met céleste, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus haut, mais qui est dans... justement, la visée élevée peut-être derrière la question, pas simplement rester au niveau des pâquerettes, aller voir plus haut, peut-être, Et puis quelque part aussi, ça renvoie pour lutter contre ces choses qui sont plus élevées et qui nous dépassent, c'est là qu'il faut peut-être des armes qui sont d'en haut aussi, et donc peut-être élever le débat justement d'un cran. Et c'est ce qu'il propose dans la suite, où vraiment il y a une ouverture à la puissance qui vient, donc au verset 13. Hein. C'est pourquoi prenez la panoplie de Dieu. Alors c'est vrai que là, vous voyez, c'était au début, c'était revêtez-vous en fait. Donc c'était comme entrer dedans. Il y a le N aussi du début de revêtez-vous. Vous voyez, c'est rentrer à l'intérieur et avoir cette puissance de Dieu. Quelque part, c'est comme... entrer dans une pelle mécanique, j'adore les pelles mécaniques, les poquelins, je ne sais pas pourquoi, ça doit être ça aussi, ça doit s'analyser chez le psychiatre à mon avis. Hein. Mais on entre dans une poquelin et tout d'un coup on est capable de soulever un caillou de 3 tonnes comme avec sa main, vous voyez. Donc c'est un peu ça qui me rappelle, moi, c'est la déformation psychologique. Revêtir la panoplie de Dieu, on entre dans la pelle mécanique et tout d'un coup on a une force surpuissante, on a comme un bras qui est capable de soulever des cailloux de 3 tonnes, des envoyés balader à 72 mètres, vous voyez. Mais là, les armes de Dieu, on les prend en main en fait. Hein. Sauf que Anna l'embêter, c'est l'embano, c'est prendre, et là c'est Anna, c'est les élever aussi. Il y a l'idée quand même hein, d'élever, de le... C'est ça, donc il faut les élever plus haut peut-être dans notre psychologie, dans notre espérance, dans notre pensée aussi. Prendre et les élever finalement, ces armes, cette panoplie hein, que Dieu nous donne et qui est la panoplie, la manière d'être de Dieu pour agir dans le monde finalement. Pour que vous ayez hein, la puissance finalement de résister, de tenir bon, de tenir debout. Dans le jour mauvais, dans le moment difficile. Ça, c'est intéressant, c'est dans les bons jours qu'on se prépare, qu'on prend des forces, qu'on attrape, qu'on s'exerce peut-être à ses panoplies. Ça, je crois que c'est une bonne sagesse, oui, c'est quand tout va bien, qu'on est en forme, c'est là qu'il faut investir dans la recherche et le développement, faire des lectures, de la prière, de la philosophie, de la théologie, des discussions armées, une bonne capacité à tenir debout, finalement. Hein. Alors là, vous voyez, le tenir debout, il y est pas moins de 3 fois, vous voyez. Antisthenai, c'est se tenir debout face à quelque chose, finalement. Hein, anti, dans le jour mauvais. On a l'impression que, de toute façon, il va venir, en fait. Hein. Bon, c'est vrai que toute vie, plus ou moins, hein, je veux dire, il y a des... Moi, j'ai jamais vraiment connu de catastrophe. C'est injuste, parce qu'il y a des gens qui, à mon âge avancé, ont déjà connu 12 catastrophes. Hein. Donc, c'est pas question de faire le malin. Hein. Bon. C'est aussi... la vie n'est pas toujours juste. Hein. Et ensuite, tenez debout, au verset 14, hein. Alors, maintenant, il y a les armes, en fait. Et donc, là, il y a 6 ou 7 notions fondamentales qui sont, en fait, un petit catéchisme de base fondamental sur ce qui est essentiel pour le chrétien. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ?
La justice.
Alors, ayant saint le rein de vous, ayant saint vos reins de vérité. Alors, cindre les reins, c'est un peu une image pour avoir de la force, hein. Alors ça, j'ai mis derrière sur le verso, j'ai mis 2 citations d'Ésaïe, parce que finalement c'est un peu le style d'Ésaïe, il reprend ça finalement. Hein. Donc la ceinture de ses reins, on l'a à la fin de Ésaïe 11, vous voyez le dernier verset, verset 5, hein, qui est à la fin du passage que j'ai cité là. On connaît très bien Ésaïe 11, c'est un très beau passage sur le souffle de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, qui repose sur le Messie que nous sommes tous à la suite du Christ. Hein. C'est ce que rappelle le récit de Pentecôte, c'est le don de l'Esprit universel à toute personne. Donc on est tous un petit peu de cet ordre. La justice sera la ceinture de ses reins et la probité la ceinture de ses hanches. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un peu une citation d'Ésaïe, mais on peut comparer avec les citations d'Ésaïe un peu les armes qui nous sont proposées par Paul dans Éphésiens par rapport aux armes qui étaient dans Ésaïe. Et c'est vrai qu'il y a une sacrée différence. Donc là, on a des très belles choses. La ceinture de ses reins, la probité, la ceinture de ses hanches. Ok. La fin du verset avant, il frappera la terre du sceptre de sa bouche. C'est déjà, il y a l'idée de frapper la terre et le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Ça fait déjà plus peur, quoi. Alors que là... Paul dans Éphésiens, il dit non, c'est pas contre la chair et le sang, donc il n'y a pas des personnes qui seront éliminées, c'est plutôt la racine du mal dans ces personnes et dans le monde qui doivent être atteintes, qui doivent être travaillées par ces armes. Et c'est la manière dont Dieu agit aussi, non pas en supprimant le méchant, mais en travaillant en amont, en travaillant à l'intérieur, en travaillant, voilà.
Il parle de l'épée de l'esprit, quand même, sans rapport.
Il parle de l'épée de l'esprit, absolument, oui, oui. Alors ça, on va voir, effectivement, mais l'épée de l'esprit, qu'elle souffle de sa parole, mais il n'y a pas marqué qu'elle frappe, elle tue, elle fait mourir. Hein. C'est ça, hein, parce que l'épée de l'esprit, l'épée de la parole, c'est celle qui discerne. C'est celle qui dit, bah oui, faut appeler un chat, la méchanceté, c'est pas de la bonté, c'est pas la même chose. Hein. Donc c'est une épée qui sépare, qui distingue. C'est pas forcément une épée qui tue. Dans Ésaïe 59, on voit à la fin, hein, son bras au verset 59, donc verset 17, hein, il revêt... de la justice comme d'une cuirasse, on le retrouve. Il met sur sa tête le casque du salut, on le retrouve chez Paul aussi. Comme d'une tunique, il se revêt de vêtements de vengeance. Il s'enveloppe de passions jalouses comme d'un manteau. Alors c'est vrai que si vous voulez, c'est... Bon, alors cela dit, on sait comment parlent les prophètes. Comment dire, faudrait voir plus largement que cet extrait. Parce que les prophètes, ils disaient, bon, écoutez, maintenant, j'en ai marre, vous avez abusé, je vais supprimer tout le monde, je vais crabouiller tout ça. Et puis, on passe page après, dit, oui, mais enfin, bon, finalement, encore une fois, je vais pardonner, je vais vous relever, etc. Donc, c'est aussi une pédagogie arrête-moi ou je fais un malheur. Un petit peu. Donc, c'est un peu un langage comme ça des prophètes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il pensait que Dieu était un Dieu méchant comme ça, d'autant plus que là encore, il fera mourir le méchant, ça veut dire qu'il supprimera la méchanceté dans chacun. Ça ne veut pas dire qu'il identifie telle personne avec le méchant, le mécréant, mais voilà.
C'est trop la table de vérité et justice, ça me touche tout de suite, mais là, je vois ce genre de promptitude, ce qui d'ailleurs a été traduit « bonne disposition ». C'est plus surprenant.
Oui, Alors ça, cette bonne disposition, je pense que c'est quand même plus etoi mazo, c'est plus l'idée de se préparer, par exemple j'ai trouvé Matthieu 3:3, c'est préparer le chemin du Seigneur. On connaît bien, c'est aussi cet appel à préparer le chemin du Seigneur, se préparer à l'intérieur de nous-mêmes pour que l'Évangile, pour que l'Esprit puisse faire son chemin et puis justement nous élever au-dessus de la réalité du mal. C'est ce etoi mazo. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis promptitude. C'est faut chausser au pied l'idée de se préparer, quoi. Peut-être c'est l'urgence de se préparer. Ou alors dans Luc 1:17, ils annoncent à Zacharie pour qu'il y ait un peuple bien préparé. C'est ce etoi mazo aussi. Donc c'est l'idée de bien se préparer. Alors vous dites que la fidélité, la vérité, c'est clair. C'est justement pas très clair, parce que aletheia, en grec classique, justement, c'est le dévoilement. Donc c'est une vérité de ce qui correspond à la réalité, en fait. C'est dire vrai, c'est quand on dit, là, il y a une table, effectivement, il y a une table. Si je vous disais qu'il n'y en a pas, ce serait un mensonge. Ça, c'est l'aletheia grec. Mais dans l'hébreu de la Bible, c'est plus compliqué, puisque ça correspond à la notion de emet ou emuna, qui est en fait qui est la racine de vrai, quoi, de la fidélité. Donc là, aletheia, c'est plus la relation vraie avec Dieu, en fait, ou la relation vraie en général. C'est la fidélité. Vous voyez, c'est pas une vérité de dogme.
Dans le dévoilement, il y a une action. C'est pas une vérité.
Mais puis c'est quelque chose qui était caché. Mais puis c'est quelque chose qui était caché, et puis tout d'un coup, on connaît le secret. Alors que là, c'est pas ça, c'est pas une question. On n'a pas la vérité, cette vérité-là, on la possède pas. On est la vérité. On est dans la fidélité, on est dans une relation juste, on est dans une... Vous voyez, c'est plus une question de relation que de savoir. Et le contraire de cette vérité-là, c'est pas l'erreur. C'est la trahison, c'est le... Vous voyez, c'est pas la folie, le contraire de cette vérité-là. C'est pas l'erreur, c'est la trahison. Donc c'est plutôt la fidélité, on pourrait traduire. Mais c'est là qu'entre le grec classique, il faut plus aller chercher dans le grec des Septantes le concept grec. Alors ce qui est compliqué, c'est que là, il y a aletheia, justement, et puis il y a pistéos au verset 16. Et effectivement, en hébreu, c'est très très clair, c'est très très proche, les deux notions. Donc aletheia, c'est emet, et pistéos, c'est emuna, c'est presque la même chose. Si on regarde, pistéos emuna, c'est plus le fait d'abandonner Dieu, quoi, d'abandonner ou d'oublier Dieu. Et aletheia, emet, la fidélité, c'est plus être dans une relation juste avec Dieu. Donc on ne l'oublie pas, mais on peut un peu le trahir, chercher à le tromper, se prendre soi-même pour Dieu. Bien que ça, prendre soi-même pour Dieu, ce serait plus se détourner de lui, l'oublier, l'abandonner. Ce serait plus le pistéos de Emuna. Mais c'est très très proche, de toute façon. Entre pistéos et Emuna, et puis aletheia, la vérité, la fidélité, c'est pratiquement le même concept dans la Bible hébraïque, donc dans le Nouveau Testament aussi. C'est très proche. En tout cas, cette force, vous voyez, ceindre les reins de vous, mettre une ceinture, ça veut dire nous donner une armature, une force, une... Et vous voyez, c'est une force intérieure, quasiment. C'est, même si c'est... quoi ?
Un élan.
C'est un élan, c'est rassembler ses forces, voilà. Donc ensuite, ayant revêtu la cuirasse de la justice, alors la justice, c'est en hébreu, c'est plus que la justice de... bien sûr, du ministère de la justice. Ça peut être le gouvernement, c'est une action aussi, la justice. C'est une action de gouvernement, de mise en justice, d'avoir des actes qui rendent le monde plus juste, hein, c'est ça. Donc ça aussi, si vous voulez, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce côté imagé, on pourrait le décliner pour notre vie entre nous, pour notre société, par exemple. Que notre société soit plus forte, il faut peut-être effectivement travailler sur plus de justice, de gouvernement, du bon gouvernement dans la société, ben, que ça ferait une société plus forte, qui peut tenir debout, vous voyez. Ce serait une cuirasse contre ce qui ne va pas à l'extérieur, même contre nos ennemis. Voilà, si on avait plus de justice dans notre société, c'est une armature même vers l'extérieur. Hein. Ça nous blinde, hein, finalement. Alors, ayant chaussé les pieds de la promptitude, donc de la préparation, l'évangile de paix, ils ont mis évangile, c'est mieux effectivement que la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, ça veut dire bonne nouvelle, mais c'est vrai que là, ils ont mis un E à majuscule à évangile. C'est pas idiot, hein. C'est quand même Evangelion. Alors, effectivement, ils n'ont pas traduit Evangelion, ils ont mis évangile. Ça veut dire bonne nouvelle, mais en même temps, c'est la bonne nouvelle du Christ, hein, bien sûr. Et puis la paix, c'est pas simplement la paix entre nous ou la paix intérieure, oui, c'est ça aussi. Mais une paix, c'est une évolution aboutie, un petit peu, dans le shalom hébraïque. C'est quelque chose qui se poursuit dans une évolution. Donc l'évangile de la paix, c'est la bonne nouvelle, je pense, de la paix avec Dieu, peut-être, hein, qui nous prépare à cette dynamique, à une dynamique, hein, non ? Qu'on doit chausser pour avoir peut-être le courage d'aller dans le monde, si on se sait que Dieu est un Dieu de paix pour nous et qu'il ne veut pas nous massacrer. On est dans une confiance, on est dans une... Non, je ne sais pas comment vous le comprenez. Après, c'est à chacun, si vous voulez, une fois que c'est décrypté, bah, d'en faire de l'usage dans son existence, dans sa psychologie, pour être dans cette dynamique. Voilà. Mais il dit que c'est ça qui nous prépare et qui nous met dans une bonne dynamique. Voilà, finalement.
Du zèle.
Quoi ?
Dans ce texte, on peut voir aussi du zèle.
Du zèle ? Alors, on peut voir du zèle, parce qu'effectivement, dans Etoimazo, on y voit des fois la promptitude, la rapidité, je ne sais pas comment ils ont traduit là, ils ont mis bonne disposition, oui. Je vous dis, ce etoimazo, ça veut dire se préparer. Alors ensuite, comme c'était un peu boiteux, ils ont mis, ben, puisque c'est les pieds, c'est peut-être aller bien vite. Ben, peut-être, mais ça veut dire se préparer. Donc je ne sais pas ensuite, hein, comment on arrive à comprendre la phrase après. Elle est un peu, c'est toujours un peu le jeu de ces images, c'est qu'on, des fois, on... tellement d'images emboîtées qu'on a un peu de difficulté.
C'est un texte qui a été beaucoup commenté et repris.
C'est-à-dire, comme c'est un joli texte bien imagé, c'est vrai qu'on l'aime bien, si vous voulez. Hein. Et puis donc, vous voyez, c'est un commentaire d'Ésaïe, mais il le transforme en faisant quelque chose d'extrêmement positif, de beaucoup moins menaçant que ne l'est Ésaïe. C'est peut-être aussi une exégèse d'Ésaïe, en disant, mais en fait, on pensait... justement une sévérité pour tuer le méchant dans Ésaïe, dit, ben écoutez, non, faites pas ça. C'est aussi une interprétation d'Ésaïe, de dire, ben non, je suis désolé. En Christ, on fait une relecture d'Ésaïe en faisant une interprétation différente. Plutôt, préparez-vous vous-même, finalement, hein, et que ça vous donne une bonne dynamique, un bon zèle, je suis d'accord, on peut mettre ça, hein. Et que c'est l'évangile, mais c'est l'évangile de la paix, c'est pas l'évangile de la guerre. C'est une évangile qui met la paix entre les gens, qui veut le bien de chacun. C'est quand même particulier. Hein. C'est pas l'évangile de la vengeance, c'est pas l'évangile de la sincérité, de la passion jalouse. Donc c'est quand même... chaque mot veut dire quelque chose. Hein. En toutes circonstances, saisissant le bouclier de la foi. Donc la foi, c'est un bouclier, ce qui nous permet donc d'éteindre les traits du malin, du méchant, les traits enflammés, voilà, hein. Enflammés, ça les éteint. Donc c'est vrai que la flamme, quand c'est la flamme de Dieu, bon, Il y a des gens qui en ont fait une menace de souffrance éternelle et de punition de Dieu, mais non, la flamme de l'Esprit-Saint, ça n'a jamais été quelque chose, une menace de peine éternelle. Au contraire, c'est positif, c'est le feu de l'amour qui enlève ce qui est mauvais dans la personne et qui garde le meilleur. C'est l'idée d'une purification, hein. C'est ce que rappelle Paul, d'ailleurs, dans Colossiens, je pense. Hein, on est voilà, purifié comme du minerai dans un creuset hein, par le feu. Mais c'est ça, c'est le feu de la parole de Dieu. C'est un feu qui purifie, qui enlève le mal et qui garde le bien. C'est un feu de l'amour, en fait. Les feux de l'amour. C'est ça. Hein. Mais là, c'est des feux, c'est un feu... Un feu du malin. Donc, en fait, le feu du malin, il fait l'inverse. Il brûle ce qui est bien et garde le mal. Ben ça, ça peut se trouver dans la moquerie, dans la haine, dans la vengeance, dans la colère. Voilà. Donc, au contraire, il dit ça, ça permet d'éteindre ces traits enflammés. Ça, la racine du mal est supprimée, finalement. Par ce bouclier de la foi, donc vraiment de tenir bon la relation à Dieu. Alors ensuite, il y a le casque du salut. Recevez, c'est à la fin du verset 16, comment ils ont traduit ça. Prenez le bouclier de la foi, prenez aussi le casque du salut. La décomaille recevez, c'est accueillir en fait. Hein. C'est le mot accueillir, hein, comme on accueille quelqu'un à table en fait. Ça peut être recevoir, mais comme on reçoit quelqu'un à table. Donc c'est quelque chose. Ce salut, c'est comme quelque chose de vivant qu'on accueille à notre table. Hein. Ça peut rappeler quelque chose, ça peut rappeler accueillir le Christ. Comme dans notre famille, dans notre maison, soit l'hôte de notre table, de la manière dont on se nourrit, dont on vit la vie quotidienne. Donc, il faut l'accueillir et c'est ce qui vient revêtir notre tête, donc la racine même de ce qui commande dans notre existence, finalement. Hein. C'est ce qui est proposé. Alors ensuite, on peut le comprendre de mille façons, dans notre façon de voir la justice, dans notre façon d'agir, dans notre façon de prendre des armes, dans notre façon d'espérer, notre façon de voir la dignité de chaque personne. Vous voyez, ça se décline dans tous les niveaux de l'existence, c'est le langage imagé, c'est là que c'est très très fort. Il faut le mettre sur notre tête, et que ça rende notre tête solide contre tout, finalement. Hein. Et donc, casque du salut. Alors ensuite, il y a l'épée de l'esprit, effectivement. L'épée qui est la parole de Dieu. Alors c'est là que c'est un peu compliqué, parce que la parole... Il y a deux mots pour parole, il y a rhéma et il y a logos. Alors rhéma, c'est plus la parole un peu externe, c'est ça ?
Interne.
Un peu subjective. Rhéma, c'est plus les commandements, par exemple, les commandements qui sont donnés dans les dix paroles, les décalogues, les dix commandements, c'est rhéma, c'est en grec... c'est pas la même parole que le logos créateur de Dieu au départ. Hein. C'est toujours un peu cette distinction un peu délicate entre les deux types de paroles, la parole de commandement et la parole créatrice. Sauf que ici, c'est vrai qu'ils identifient l'esprit, l'esprit avec la parole en fait. Hein. Et c'est quand même c'est quand même assez fort hein, parce que alors là c'est vrai que bon en hébreu c'est rhéma, ça donne dabar hein, c'est la parole donc de révélation finalement, alors que logos c'est plus amar, c'est la parole créatrice qui sépare le sec du mouillé, les ténèbres des lumières, qui est cette mise en ordre contre le chaos. Alors ici, c'est la parole rhéma théous, c'est la parole qui est envoyée à quelqu'un, par exemple Abraham, pour le mettre en route, c'est la parole particulière qui est donnée à quelqu'un, c'est la parole de la vocation, c'est la parole... et finalement, c'est ça qui ici, est créateur. C'est cette parole-là qui nous est qu'on peut utiliser pour faire avancer. Alors, finalement, c'est la seule arme offensive ici, finalement, qui est proposée. Hein. Tout le reste, c'est des armes défensives, c'est des boucliers, c'est des casques, c'est des cuirasses, c'est des ceintures. Finalement, face au mal, déjà, il faut s'armer soi-même avec les armes de Dieu, donc se laisser construire, se laisser pacifier, se laisser mettre en route, voilà, et c'est d'abord ça, lutter contre le mal. Et puis ensuite, eh ben, il y a quand même cette épée qui est la seule qui est proposée, donc c'est l'épée de l'esprit, l'épée d'une bonne parole qui sera la parole juste peut-être pour la personne va être créatrice, mais c'est pas notre parole à nous, c'est la parole de Dieu. Donc c'est très délicat, parce que comment est-ce qu'on peut avoir la parole de Dieu, nous, hein, on a des paroles humaines. Hein.
C'est la même épée que celle qui garde le rayon.
Pardon ?
C'est la même épée que celle qui garde le paradis perdu.
Alors oui, à l'entrée du paradis, il y a donc des anges qui gardent le chemin, avec des épées flamboyantes. Hein. Alors il y a marqué qu'ils le gardent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils en interdisent l'entrée du paradis, ça peut vouloir dire qu'ils en marquent le chemin, au contraire, hein, pour entrer à l'arbre de vie, je ne sais pas. Hein. C'est ambigu, là aussi, dans ce verset de la Genèse, pour garder l'épée de la parole. Mais oui, c'est cette épée-là, hein, quand même, auquel ça fait référence. Hein.
Parce qu'on dit que l'épée flamboyante, c'est aussi le symbole du lien avec le ciel, hein, l'énergie de la poudre.
Ben, c'est-à-dire que oui, voilà, les armes, il fallait les dresser, donc c'est un peu ça. Hein. Voilà. Donc voilà toutes ces armes qui sont proposées, hein, pour vraiment agir dans ce monde. On voit que ce n'est pas des armes de la violence contre le corps et le sang, c'est vraiment plutôt des armes spirituelles, dans la confiance en Dieu quand même, pour avancer. Donc on laisse retourner à ceux qui veulent aller à leur travail tranquillement peut-être, hein, mais on peut continuer pour ceux qui ont un peu plus de temps de bavarder ici. Hein.